Et c'est parti, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau chapitre même. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine, ça fait quelques semaines maintenant, et on va parler de beaucoup de choses ensemble. Je vais vous faire le sommaire dans quelques instants. Est-ce que j'ai une bouteille d'eau avec moi ? Ouais, elle n'est pas super remplie, mais je pense que ça va le faire pour la durée du podcast, sinon je mettrai sur pause. Pour ceux qui nous rejoignent, petite introduction, je m'appelle Antoine, j'ai créé une entreprise dans l'automobile pendant 6 ans. J'en suis récemment parti et je monte en ce moment une nouvelle entreprise en appliquant les leçons que j'ai retenues de ma précédente boîte et en vous les partageant. Et c'est tout l'objectif de ce podcast. Donc ça fait longtemps que je dois sortir cet épisode, mais disons que la vie est allée très vite récemment. Et donc du coup j'ai eu du mal à sortir un épisode de podcast et du coup cet épisode va aussi être un petit peu long. J'essaierai de reprendre le rythme un peu plus normal dès la semaine prochaine avec des épisodes d'une durée un peu plus raisonnable. Là, je pense qu'on va les taper l'heure et demie sans trop de problèmes, surtout si je continue cette introduction de manière un peu trop lente. Je vous prie aussi de m'excuser, j'ai un tout petit rhume, enfin je suis un peu pris. Du coup, je dois avoir une voix un peu nasillarde et tout. Désolé pour ça, mais j'ai plus rien. Cet épisode de podcast, on va avoir 4 parties. On va avoir le débrief du marathon de Paris. Ça commence à faire un bail, ça fait 2 semaines précisément. Je vais vous annoncer aussi la nouvelle entreprise pour laquelle je travaille désormais et ce que j'y fais. Ensuite, on va débriefer des 2 dernières semaines quand même, comme d'habitude. Et enfin, on va parler du livre de Pierre Berger que j'ai terminé et dont je vous avais parlé dans les semaines précédentes et qui était un super bouquin. Donc voilà les différents sujets qu'on va aborder. Je pense que le débrief du marathon, ça va nous prendre une 30aine de minutes et ensuite on peut espérer entre 15 et 20 minutes par partie. Donc voilà, ça vous donne une idée de si vous voulez aller trouver les chapitres, donc fin du débrief du marathon dans 30 minutes, ensuite nouveau projet, la fin du nouveau projet vous serez à 45 minutes grosso modo, ensuite donc 45 minutes sera le débrief de mes 2 dernières semaines, ça vous amène à 1h, et de 1h à la fin sera le livre de Pierre Berger. Je vous dis grosso modo, ensuite vous mettez avant après en fonction de ce qui vous intéresse, mais voilà. On est bon, maintenant que ça c'est dit, je vous propose de débriefer le marathon. Alors je vous en avais pas mal parlé quand même au fur et à mesure des épisodes, quelle allure est-ce que j'allais chercher, dans quelles conditions est-ce que je voulais être en arrivant, est-ce que j'allais réussir à faire ce que je voulais, etc. On va reprendre quand même depuis le début. Donc le marathon de Paris, c'est mon 2e marathon, j'en avais déjà fait un il y a 2 ans à peu près, même un tout petit peu plus de 2 ans, je crois, c'était le marathon de La Rochelle, et j'avais fait 4h26. Alors 4h26, c'est un mauvais temps, enfin, c'est pas un mauvais temps, mais c'est pas un bon temps. C'est le temps de je suis finisher, donc c'est honorable, mais c'est le temps de je l'ai pas fait pour le temps, en gros. C'est le temps de j'ai fait ça pour finir et pour l'expérience, ce qui était trop cool, et en vrai c'était une expérience ultra stylée, mais j'avais pas fait une préparation qui était suffisamment bonne, et du coup je l'ai fini, mais je l'ai vraiment fini dans la douleur, et c'était un enfer. Et donc là, pour ce nouveau marathon, je voulais un peu prendre une revanche là-dessus, et faire une bonne prépa. Donc, ce que je vous propose dans ce débrief du marathon, c'est 3 grandes parties, la prépa, le marathon en tant que tel, ses leçons, et une dernière partie qui s'appelle « Je roast vos pancartes », où j'ai noté 4-5 pancartes que j'ai envie de vous roaster. Donc, là je m'étais dit, vas-y, il faut faire une bonne prépa. Je connais les tenants, les aboutissants, je sais ce qu'il faut faire, le volume, nanana. Je me fais ma petite prépa, je m'organise, je me dis ok, il faut que je monte le volume à tel niveau, tout ça, ça se passait plutôt bien. Et donc là, on était, c'était même l'été dernier. Je courais déjà pas mal, donc j'étais bien, j'avais ma trajectoire de volume qui était très tranquille. Je devais prendre 2-3 km en plus par semaine de volume, donc c'était vraiment pas grand chose. Et arriver tranquillement vers les 50 km par semaine, 50-60 km par semaine en fin d'année. Il se trouve qu'on fait un off-site avec mon entreprise de l'époque, et que ma mentalité un peu trop compétitrice a pris le dessus dans un karting, et donc je me suis fêlé une côte, et je sais pas si vous êtes déjà cassé ou fêlé une côte, mais ça devient impossible de faire quoi que ce soit pendant que cette côte est fêlée. Donc en gros ça s'est arrivé je pense en octobre, dans ces eaux-là, octobre ou novembre. Et donc là, j'ai dû arrêter net la prépa pendant 3 semaines, pas de course à pied, rien, parce que c'était impossible de faire du sport. Ça a été un peu brutal. En vrai, ça a été 3 semaines qui n'ont pas été très fun, d'un point de vue perso, parce que bah, quand on fait pas de sport, forcément c'est un peu chiant. Et bah, ça m'a pas mal coupé dans le rythme. Donc du coup j'ai dû reprendre, mais j'ai repris en me disant vas-y, il faut remettre très vite du volume, parce que là t'es censé être à 60 km par semaine pour faire ce que tu veux. Ça fait 3 semaines que t'as pas couru, donc il faut que tu réattaques assez haut. Et bon, j'étais content de pouvoir courir à nouveau, d'une part, et d'autre part, je me mettais la pression pour augmenter mon volume de course rapidement. Et donc du coup, bah, j'ai eu la blessure du mec qui veut en faire trop alors qu'il a pas la shape pour en faire autant, et j'ai commencé à avoir des douleurs de sanguin aux ischios, surtout à l'ischio gauche, au mollet, pour le coup deux mollets, la face interne du mollet, et aussi au niveau du gros orteil du pied gauche. Et bon, comme ça, c'est un peu nul de vous dire au niveau du gros orteil du pied gauche, mais je vous assure que ça fait mal, et d'autant plus quand vous courez beaucoup. Et donc là, on était à 3 mois du marathon, je pense. Ouais, facile 3 mois, même moins de 3 mois. C'est sûr, on était dans la période des 3 mois, vraiment dans la période de la prépa, quoi. Et donc là, je suis allé voir mon kiné, et il a fait des miracles, merci à lui. Je pense pas qu'il écoute ce podcast, mais merci à lui, si jamais il écoute un jour. Il a fait des miracles, il m'a filé les exos qu'il fallait et tout ça, donc je l'ai fait encore aujourd'hui. Ça m'aide beaucoup. Je pense que je manque de force sur les jambes, et c'est un des diagnostics de ce marathon. C'est cette partie force que j'ai envie de travailler pour les prochains. Et voilà. Et en gros, bah bien sûr, il y a eu ces exercices, mais un des trucs qui a permis de réduire la douleur, ça a aussi été de diminuer drastiquement le volume. Et au début, je l'ai plus ou moins écouté, comme tout le monde, je pense qu'il va chez le kiné, et du coup, j'ai quand même continué à courir un peu de volume. Et en fait, il y a eu plusieurs semaines où j'ai dû remplacer du volume par du vélo, voire ne rien faire du tout, et donc bah, ça a pas mal touché ma prépa. Donc je cherche pas du tout d'excuses dans ce que je dis là, c'est plus des choses que moi j'ai apprises sur bah, comment bien gérer ma prépa, et bah, c'est de ma faute si... En l'occurrence, la blessure à la côte, c'était pas vraiment de ma faute. Enfin, c'est moi qui suis allé un peu trop vite au karting, mais bon voilà. Mais en l'occurrence, les blessures d'après, j'aurais pu les éviter si j'avais fait une meilleure prépa, si j'avais écouté un peu mieux la théorie de la course à pied, et si j'avais été un peu plus smart là-dessus. Donc, lesson learned pour la prochaine fois. Donc, j'ai pas réussi à tenir ma prépa à cause de ces blessures, voire j'ai empiré la situation. Et j'ai été très ambitieux dès le début parce que je voulais faire moins de 3h30. Ce qui, je pense, est honnêtement accessible pour un marathon, à condition d'avoir la prépa parfaite. Mais le problème, c'est que ce niveau d'ambition m'a mis la pression, j'ai pas pu avoir la prépa que je voulais, et donc ça s'est reflété ensuite sur mon marathon, dont on va parler juste après. Et en fait, au moment où le truc qui est chiant, c'est qu'au moment où la prépa est devenue moins consistante, bah j'ai un peu lâché sur la rigueur en tant que telle, j'ai pas lâché sur le volume, sur le nombre de courses et tout, mais disons que j'étais plus en mode je regarde les allures à la seconde, le fractionné, nanana, j'étais juste en mode je fais le volume qu'il faut, je veux pas me blesser, that's it. Et le fractionné, les trucs comme ça, on verra plus tard. Et donc bah forcément quand on fait une prépa marathon sans faire de fractionné, sans faire des exos comme ça pour augmenter la VO2 max notamment, bah forcément ça se ressent dans les performances, et voilà. Et d'ailleurs pour vous dire le niveau de rigueur auquel je n'étais plus astreint, c'est que je m'étais dit que j'allais courir le marathon en 3h45, du coup, en gros au moment où mon objectif de 3h30 était mort, j'étais en mode bon bah j'essaierai de faire 3h45 pour sauver les meubles et voilà. Et donc j'étais persuadé que c'était 5 minutes 30 au kilomètre, et en fait j'ai découvert la veille que c'était 5 minutes 20, et ça paraît pas grand chose comme ça, mais 10 secondes au kilomètre sur 42 kilomètres, c'est pas du tout la même course. Mais bon, je me suis dit, bah tant pis, je me mettrai en 5 minutes 20, c'est pas grave, mon objectif ce sera 3h45, et voilà. Donc ça c'était la veille. Donc bref, tout ça pour dire que la prépa s'est pas passée exactement comme je voulais, et j'ai fait des conneries que j'aurais pas dû faire. Et donc j'ai appris les leçons, et promis, pour ma prochaine prépa marathon, je vais faire un truc au millimètre, et ce sera ultra propre. Là où j'avais un avantage, c'est que c'était mon deuxième marathon, et donc je connaissais l'effort auquel j'allais faire face, d'une part, et d'autre part, j'avais repéré l'intégralité du parcours. C'est-à-dire que l'Est parisien, je le connais très bien parce que j'y vais souvent y courir ou à vélo. La partie entre Châtelet et la Tour Eiffel, je la connais aussi très bien parce que j'y vais souvent courir. Mais la partie Tour Eiffel, Bois de Boulogne, tout ça, ça je le connaissais pas du tout. Et je voulais le repérer avant, ce que j'ai fait, et je le regrette pas parce que tout le monde le dira, à la fin c'était un enfer et ça montait de ouf. Et moi je connaissais ces montées, donc c'est pas pour ça que j'ai pas souffert, mais au moins je savais ce qui m'attendait et je savais ce à quoi j'allais faire face. Donc, tout ça pour dire qu'on arrive la veille du marathon, moi j'étais vraiment focus. Pour le coup, j'étais dans ma bulle, j'avais tout bien fait, récupéré mon dossard, machin, bon programme alimentaire, sommeil à peu près ok, très bonne hydratation, vraiment propre. Le matin, je savais comment ça se passait, quelle heure il fallait se lever, qu'est-ce qu'il fallait manger, etc. Alors le riz à 5h du mat, c'est pas ce que je préfère, mais mais c'est efficace. Donc voilà, j'étais très bien, j'arrive dans le sas de départ, je rejoins un pote, ça fait du bien d'être avec quelqu'un dans ces moments-là, de pas être tout seul, on était à deux à courir, donc ça c'était assez cool. Et donc, on prend le départ, et là franchement j'ai été un métronome pendant une grosse partie du truc en fait. Et par rapport à mon premier marathon, ça faisait vraiment la différence, j'ai regardé après, mon premier marathon j'avais des allures un peu aléatoires, genre des 5-10, 5-35, 5-20, ainsi de suite, enfin, j'étais vraiment une pendule quoi, alors que là j'étais un métronome, c'était en mode, je m'étais dit, je me mets à 5-20, les 20 premiers kilomètres j'étais à 5-15 du kilomètre, c'était bam 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 bam, ultra propre. Et franchement j'étais content parce que c'était... Tous les kilomètres s'enchaînaient, parfois il y avait un peu de dénivelé et tout, mais à chaque fois j'avais le même rythme, ou genre à une ou deux secondes près, donc vraiment c'était vraiment propre. Et j'avais peur de partir trop vite et de le regretter passer le 20e kilomètre. Et en fait ça allait, j'avais des bonnes sensations, le bois de Vincennes c'était long, la partie bois de Vincennes était grave longue, et j'arrivais pas trop à me repérer en fait, mais ça se passait super bien. Et on sort du bois de Vincennes, j'étais vraiment bien, je croise des gens qui s'arrêtaient déjà pour marcher et tout ça, donc je me dis putain ok, je suis bien parti, j'ai bonne sensation, j'ai pas trop de douleur, un petit peu au genou, un petit peu ci et là, mais enfin c'est des douleurs normales quand on s'apprête à courir une longue distance. Donc vraiment pas du tout inquiet, on sort du bois de Vincennes, ambiance de malade à Bastille, là c'était un truc de ouf. Ça me porte plus ou moins parce qu'en fait je suis assez concentré dans ma course, et on en reparlera de ça, mais en fait il y avait beaucoup d'encouragement, alors pas à tous les endroits, à Vincennes c'était un peu mort, mais dans tout le reste du parcours c'était vraiment des encouragements de ouf partout, et en fait je sais pas si ça m'a porté, parce que j'ai réalisé ces encouragements que après, genre je les ai réalisés quelques jours plus tard, et genre j'ai eu un petit moment de frisson à ce moment-là en me disant ouais, mais en fait il y avait vraiment du monde de ouf, c'était trop cool et tout, donc voilà, donc je sais pas à quel point ça a joué, mais en tout cas bonne ambiance, pas trop de monde qui court ensemble et tout, enfin c'était vraiment ultra bien organisé et moi j'étais grave bien, donc je gère de ouf jusqu'au 30e kilomètre, et là je commence à entrer dans un malus, le fameux mur des 30 que je me prends pleine face. Et je pensais pas que ce serait aussi dur à ce moment-là, en fait. Parce que je m'étais bien hydraté, j'avais bien mangé. Je pensais que j'allais être bien. Et là, bam, d'un coup, mes allures, elles commencent à diminuer. Je passe à des allures de 5.30, 5.35, 5.40. Et là, je me dis, waouh. Alors là, ça va pas du tout, là. Parce que autant perdre quelques secondes, c'est pas un drame. Commencer à perdre 20 secondes au kilomètre, d'un coup, les kilomètres, ils sont beaucoup plus longs. Et en fait, ce que j'avais pas anticipé, je vous avais dit que j'avais repéré tout le parcours, nanana, mais j'avais pas repéré les tunnels de la Concorde jusqu'à la Tour Eiffel, en gros, ou jusqu'à un peu après la Tour Eiffel. Et j'avais pas repéré ces tunnels-là, je pensais que c'était sur les quais, donc que ça allait être plat. Et en fait, pas du tout, c'était full tunnel, donc c'est-à-dire que ça descend, ça monte, ça redescend, ça remonte, et ça redescend, et ça remonte. Et alors ça m'a flingué entre le 30e et le 35e, vraiment. Vraiment, ça m'a tué. Je commençais à avoir des crampes au pied gauche, donc c'était horrible. Chaque fois que je posais le pied gauche, c'était un enfer. Et là j'étais vraiment dans une galère. Les tunnels m'ont buté, et en plus j'avais repéré la fin du parcours, justement. Et donc je savais ce qui m'attendait. je savais que ce qui allait arriver à partir de la montée de la porte d'Auteuil, la montée du bois de Boulogne, l'avenue Paul Doumer, et ensuite le début de la rue Victor Hugo, donc en gros toute la fin, je savais que c'était un enfer. Et là, alors donc je savais que potentiellement je craquais, en fait je savais qu'il y avait deux scénarios, soit je craquais dans ces endroits-là, et ça commençait à être dur et tout, mais ça va, soit j'étais dans une forme olympique, et en fait là je me rendais compte que je pouvais pousser plus, et je gagnais encore plus de temps. Et bah c'est le premier scénario qui s'est passé, et qui est, je suis arrivé, j'étais défracte. J'arrivais plus à manger, mes gels passaient plus du tout, j'avais des crampes, alors que j'avais un sac avec de l'eau et des électrolytes, quoi, donc je comprenais pas pourquoi je crampais, j'arrivais pas trop à boire les bouteilles d'eau, ça me dégoûtait un peu, enfin je commençais à avoir mal au bide et tout, vraiment c'était hardcore. Et là, j'ai continué, quoi, mais c'est un peu la définition de finir au mental, quoi. Et j'étais en mode, mais vraiment, mes allures, elles se sont effondrées à la fin. Je crois que je finis à du 6 au kilomètre, quoi. Donc, quand tu pars au 5-15 et que tu finis à 6 du kilomètre, vraiment, c'est plus les mêmes kilomètres. Genre, t'as l'impression de pas avancer, tu fais du surplace. C'est horrible. Horrible. Et ouais, et entre le 35e et le 42e, là, vraiment, ça a été ça, quoi. C'était vraiment au mental jusqu'au bout. Et donc, je finis par arriver en 3h55, donc ce qui est plutôt honorable. C'est un temps qui est OK, c'était pas mon objectif, donc je serais pas content de ça. Et c'est un des trucs qui me donne envie de refaire un marathon, un de ces quatre, pour aller chercher... beaucoup moins de ça, mais de toute façon, mon objectif à long terme, c'est de faire moins de 3 heures, donc... quoi qu'il arrive, j'allais en faire d'autres. Mais là, c'est sûr que j'en referai un dans les années qui viennent. Mais ça reste un marathon en moins de 4 heures. Et c'est une très bonne performance quand même. Dans 3h55, franchement, ça reste assez propre. Et je m'engage à faire mieux dans le futur. Donc voilà. Donc je fais pas le temps que je voulais. J'ai vécu un enfer, mais franchement, j'ai grave kiffé. Le parcours était trop cool. L'organisation était vraiment incroyable, j'ai trouvé. Le fait de partir en petite vague et tout comme ça, c'était vraiment trop stylé. Et je suis trop content de l'avoir fait. Et je suis trop content d'avoir fait ce marathon. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai couru mon premier marathon du coup à La Rochelle. Et à la fin, j'avais dit plus jamais je fais un marathon. Genre vraiment. Bon, déjà, mon expérience elle avait été horrible. Tu vois, tu finis en 4h26, t'es défoncé, t'en peux plus et tout. Mais surtout, j'étais KO, quoi. Genre, j'étais en mode, non, mais pourquoi on fait ça? C'est bon, maintenant je suis marathonien, merci. Terminé, quoi. Et en fait, ma copine a fait un marathon l'année dernière, du coup. Évidemment, je suis à soutenir. Et en fait, le fait de la voir faire ça, ça m'a moi-même donné envie de refaire un marathon. Et donc, je me suis dit, vas-y, ok, je me réinscris à un marathon, je fais le marathon de Paris. Et c'est marrant parce qu'on en discutait ensemble et elle s'était dit la même chose. Elle s'était dit ouais, après mon premier marathon, je sais pas si j'en ferai un, j'en referai un et tout, machin. Et en fait, il se trouve qu'elle a été tirée au sort pour le marathon des JO cet été, mais qu'elle était en mode bon, je sais pas si je me chauffe et tout. Et bon, elle commençait déjà à se chauffer pendant ma fin de prépa parce que elle m'a accompagné dans quelques sorties et elle m'a dit le fait de te voir faire un marathon m'a aussi trop donné envie d'à nouveau être dans ce mood de compétition, de compétition, de course, de préparation, machin, voilà. Et je pense qu'à partir du moment où on en a fait deux, jamais 203 comme on dit, et une fois qu'on a fait trois marathons, je pense qu'on est un peu accroché à ça. Donc voilà, donc je sais pas si c'est le marathon en tant que tel ou si c'est l'atmosphère de la course, mais peut-être que ce sera des trails ou quoi, j'ai aussi grave envie d'essayer des trails, un de ces quatre, mais j'ai d'abord envie de vraiment progresser dans cette discipline du marathon, quoi, un peu master le truc, mais bon, peut-être que le trail peut aussi contribuer, donc voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est pas le dernier, et que 3h55 ça reste très honorable, et je suis quand même plutôt content de ça. Alors, je vous ai raconté ça, pardon, en une vingtaine de minutes, mais surtout je voulais vous parler des leçons du marathon qui sont... au nombre de 3, 6, 8, qui sont un peu les trucs que je retiens de cette expérience. Je vous mets sur pause, je bois un tout petit peu d'eau, et je vous retrouve. Ok, c'est tout bon, j'espère que vous apprécierez l'effort que je vous mets sur pause, pour vous éviter ces petits bruits d'eau, ce sera pas tous les jours comme ça, mais là je me suis dit que ce serait vous faire une petite faveur. Alors, les leçons du marathon. Bon, le premier c'est assez simple, mais c'est que la prépa c'est ce qui paye. J'ai été blessé là pendant cette prépa, mais j'étais quand même beaucoup mieux préparé que lors de mon premier marathon, et ça s'est senti direct. Alors bien sûr, je suis un peu déçu d'avoir craqué entre le 30 et 35e kilomètre. Je suis un peu déçu de pas avoir fait moins de 3h45, d'autant plus que pendant la course, j'y croyais vraiment, genre je regardais la montre et je me disais là c'est bon, c'est sûr, 3h45, on va les rentrer et tout. J'étais vraiment presque, donc j'ai un petit pincement au cœur là-dessus, mais les sensations que j'avais sont mais infiniment meilleures en fait. Et c'était beaucoup plus un kiff de courir ces 42 km que les 42 premiers que j'avais fait à La Rochelle, tout simplement parce que j'étais mieux préparé. Et donc ça illustre à quel point s'entraîner, à quel point se préparer à faire quelque chose marche tout court en fait, marche point. Et ça, bah, c'est une bonne leçon, et en tout cas, c'est une illustration de choses qu'on peut connaître, mais qu'on a parfois tendance à oublier, ou à prendre un peu en mode « ouais, bon, ça va, je suis pas tout à fait prêt, mais ça va le faire et tout ». En fait, c'est une illustration que l'effort supplémentaire est rewardé immédiatement. Donc voilà, qu'il y a une échéance, en fait, claire, il y a une sanction à une période d'entraînement, et que la qualité de cette période d'entraînement, elle se ressent tout de suite à la fois dans la performance, mais aussi dans les sensations de cette performance. Donc, la prépa, c'est ce qui paye. Deuxième leçon, alors ça, j'en suis assez fier, parce que c'est pas du tout pour flex ce que je vais vous dire, très loin de là d'ailleurs. Mais disons que je pense pas être perçu par tout le monde comme une personne très sportive. Et d'ailleurs, pendant longtemps, à l'école, je faisais pas partie des premiers tirés au sort quand il fallait jouer au foot. Enfin, tirés au sort choisis plutôt quand il fallait jouer au foot. Et j'étais pas non plus genre le numéro 1 en sport dans le truc. J'ai jamais été en galère de sport, j'étais pas non plus le dernier choisi dans les équipes, j'étais pas celui dont on rigolait parce qu'il avait deux pieds gauche, quoi, mais disons que j'étais clairement pas parmi les premiers, quoi. Et j'ai croisé sur le parcours du marathon une personne qui était dans la même école que moi à l'époque, donc qui avait fait Sciences Po Lille aussi, et je passe, et j'avais pas capté que c'était cette personne-là, et je l'entends dire, en fait je réalise un peu après que je viens de la croiser, c'était une personne qui j'avais pas d'affinité particulière, même loin de là, pour être honnête, et je l'entends dire, en fait je passe et là je l'entends dire, j'y crois pas, c'est Antoine Déféré. Et alors ça, j'ai réalisé après évidemment, mais quel bonheur en fait. Quel bonheur de se dépasser, de se préparer, de faire un truc qui surprend les gens et en fait qui montre, dont le résultat montre la personne que vous êtes. Quel bonheur de faire ça. C'est-à-dire que j'ai pas fait des jongles en vidéo, j'ai pas flex dans une cour de récréation ou dans une soirée BDE ou je ne sais quoi. Non, en fait. Je me suis levé un dimanche matin, j'ai couru 42 km. Et ça c'était vraiment stylé. Et je pense que chaque marathon, je le prendrai comme une revanche comme ça s'il faut, mais ce genre de truc, ça contribue beaucoup à construire la personne que je suis et à montrer par le résultat ce que je fais en fait. Donc voilà, donc ça j'étais assez content de cette revanche prise, même si c'est pas du tout suffisant pour me motiver à 100%, et même si j'ai encore beaucoup beaucoup d'achievements à débloquer, et c'est que le début, mais en tout cas je suis assez fier, c'est une petite revanche de prise sur les années que j'ai passées à Sciences Po Lille, qui étaient des années que j'ai plutôt aimées. Donc je vous ai dit, les encouragements c'était ultra stylé, mais je m'en suis rendu compte après, donc troisième leçon, les encouragements c'est quand même vraiment cool, à Bastille, au pont de Biracame et au Trocadéro, c'était des trucs de ouf, et ça aide en vrai. Et ça, c'était une grande différence par rapport à mon premier marathon. En fait, dans mon premier marathon, il y avait moins d'encouragement. Donc c'était à La Rochelle, il y avait des encouragements vraiment dans le centre de La Rochelle, il y avait beaucoup de monde, mais après, dès qu'on s'éloignait un peu, il y avait plus grand monde, ce que je comprends. Là, à Paris, il y avait des encouragements, il y avait beaucoup de monde sur une grosse partie du parcours. Et en fait, il y avait que vers Vincennes, où il y avait un peu moins de monde, dans le bois de Vincennes, mais en fait, c'est encore le début, enfin, c'est entre le 17e et le 22e kilomètre, donc normalement, vous n'êtes pas trop dans le mal à ce moment-là. Donc le fait qu'il n'y ait pas trop de monde, c'est pas un drame. Donc globalement, il y avait du monde sur tout le parcours, mais j'ai plus ressenti les encouragements dans mon premier marathon, genre ça me prenait vraiment aux émotions, j'avais presque envie de chialer à chaque fois que je voyais des gens qui nous applaudissaient, des gens qui lisaient mon nom sur le dossard, qui disaient « Allez Antoine, machin !» Là, j'avais quasiment envie de pleurer à chaque fois dans mon premier marathon, alors que là, dans ce marathon-là, j'étais beaucoup beaucoup plus dans ma bulle, j'étais en mode, en fait j'étais focus sur ce que je voulais faire, sur l'allure que je devais suivre, sur quand est-ce que je devais manger, quand est-ce que je devais boire, où est-ce qu'on allait juste après, je connaissais très bien le parcours et tout. Et donc en fait, j'ai pas réalisé ces encouragements tout de suite. Et en fait, je me suis remis de ces encouragements qu'une semaine après, quand je me suis dit, putain, mais c'était un truc de ouf, c'était incroyable et tout. Et voilà, et donc ça c'était un point que je voulais vous partager, c'est pas vraiment une leçon en fait, mais ça c'était plutôt un point que je voulais vous partager. Je pense que, donc, si je devais tirer une leçon de ça, c'est préparer bien le parcours sur lequel vous allez courir. Peut-être que vous ressentirez moins l'émotion en tant que telle quand vous serez dessus, le fait de le découvrir et tout, mais ça vous permet d'avoir un niveau de focus qui est vraiment supérieur et d'être très bon. Ensuite, donc, j'avais mis un quatrième point qui était, je vais vous le dire tel que je l'avais écrit dans mes notes, une quatrième leçon, qui était checker la définition du mot endurer. Et je vais vous dire pourquoi après, mais en fait, je l'ai pas fait parce que Théo Lyon l'a fait dans son podcast dans lequel il débriefe le marathon. Et j'ai pas envie de refaire les 10 minutes sur le verbe endurer qu'il a fait, donc il les a très bien fait, donc je lui laisse. Allez l'écouter si ça vous dit, c'est le dernier épisode qu'il a sorti où il débrief justement le marathon aussi, qu'il a couru plus vite que moi, cet enfoiré, mais il le mérite. Et voilà, et donc sa définition était très bien, mais juste je veux vous dire que le marathon c'est vraiment une distance où il y a un moment donné ça devient dur, quoi qu'il arrive, pour tout le monde. Alors ça devient dur à plus ou moins à des niveaux plutôt différents, à des endroits plus ou moins différents, mais ça devient dur. Et en fait, moi c'est à la fois une sensation dont je suis deg de que ce soit devenu tellement dur que j'ai dû vraiment diminuer mes allures, être dans une phase où vraiment je craquais physiquement quoi. Et je suis d'autant plus deg que j'ai vraiment craqué au 35e et qu'il restait pas grand chose, en soi il restait genre 6-7 km, c'est pas tant que ça, mais vraiment c'était d'une difficulté énorme, ressentie. Mais en même temps j'ai kiffé cette sensation de me dire, vas-y là il faut continuer. Là on s'arrête pas, on court. Juste, peu importe l'allure à laquelle on court, on marche pas. On court, un pied dans l'autre, tac tac tac, et on y va. Et donc, la définition du mot endurer, je sais pas, je l'ai pas retenu ce que c'était, mais c'est cette sensation-là, c'est endurer. C'est difficile, et je fais le choix conscient de continuer dans cette difficulté pour arriver à mon objectif. Et en fait, ça, j'ai kiffé. Et c'est une grosse différence aussi par rapport à mon premier, c'est que dans mon premier, ça avait été dur et j'avais pas du tout kiffé. Genre vraiment, j'étais sorti de là en mode, c'était horrible, machin. Alors que là, je suis sorti de là en me disant, putain, c'était dur, mais c'était vraiment bien. Et ça, c'est top. Et quand on arrive à se dire, c'était dur, mais c'était vraiment bien, je pense que c'est qu'on est un petit peu accroché au truc, qu'on devient un peu accro, et aussi qu'on a débloqué un nouveau niveau, en fait, hein, tout simplement. On a unlock new achievements. et c'est que le début. Le cinquième point que je voulais vous partager, c'était sur la fin de la prépa. En gros, la dernière semaine, j'avais vraiment un sentiment d'urgence. J'étais vraiment en mode, le marathon, c'était devenu quasiment ma priorité numéro une. après le priorité numéro 1, c'était le MRR de mon entreprise. La priorité numéro 2, c'était le marathon. Et en fait, il y avait un sentiment d'urgence, mais un sentiment d'urgence en mode cette semaine, je suis un athlète de haut niveau, en fait. Je mange à heure fixe, à telle heure et telle heure. Je mange précisément ci et ça. Je me complémente exactement de telle manière. Je coupe tel aliment à tel moment. Limite, si j'avais eu les trucs de compression, les pistolets, les je sais pas quoi, machin, je les aurais mis, tu vois. J'étais vraiment en mode, en fait là je suis Kipchoge quoi, genre j'ai ni le staff, ni les qualités physiques, ni le palmarès, mais par contre j'ai toutes ces habitudes et ce mode de vie, tu vois. Et il y avait un sentiment d'urgence, genre c'était vraiment un truc auquel j'étais obsesse en fait, genre je pensais à ça en mode, juste parfois je pensais au parcours, tu vois, je me disais attends, à tel moment il y a ça et tout. Je parlais que de ça. Vraiment, je pense pendant une semaine, j'étais insupportable. Parce que dès qu'on me parlait, je disais, ouais, non, mais ce week-end, il y a le marathon de Paris, je vise autant, je vais faire ça, on passe par là. Enfin, vraiment le mec monomaniaque. Et en fait, à la fois, c'était cool. Enfin, à la fois, je pense que j'étais ultra relou. Et en même temps, j'ai kiffé ça. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir ces sentiments plus souvent dans la vie, ces sentiments d'urgence, ces sentiments d'intensité, et je vous en reparlerai parce que là c'est un truc qu'on a revécu cette semaine sur un sujet pro, et en fait ça c'est vraiment un truc que je kiffe, ce fait de d'être dans le moment, dans l'intensité, de mettre de l'importance dans ce qu'on fait, de pas se prendre au sérieux spécifiquement, mais par contre de mettre du sérieux dans ce qu'on fait quoi, d'être vraiment en mode ça c'est un sujet qui est important et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et je pense que si on met ce sentiment d'urgence au quotidien, ce truc de « en fait là je suis un athlète de haut niveau mais de tel truc » et qu'on fait ça en permanence, c'est comme ça qu'on step up en fait. Et donc du coup depuis le marathon je travaille à comment est-ce que je fais pour mettre plus d'urgence et au quotidien, et je pense que ça passe beaucoup par la discipline, par l'habitude de faire certaines choses. Tu vois. Et aussi bien au travail que dans le sport, que dans la vie perso, dans d'autres trucs quoi. Typiquement la salle de sport pour moi c'est 3 fois par semaine en muscu, l'objectif c'est de ne jamais déroger à ça, peu importe. Et là on est dimanche soir, j'enregistre à 23h, hier soir je suis allé en concert, j'avais pas fait mes 3 séances, ce matin j'étais à la salle de sport, et voilà. Et il y a plein d'autres choses qui contribuent à ça et sur lesquelles il faut absolument travailler, c'est la régularité du sommeil, machin, mais je fais le max, voilà, là-dessus. Mais ce sentiment d'urgence, ce sentiment de devoir accomplir quelque chose absolument à tel moment, d'être vraiment obsesse par un résultat, j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, donc j'espère le mettre davantage dans ma vie, parce que c'est ce que j'aime. Alors par contre, ouais, il y a 2 trucs que je voulais vous dire. Deux dernières leçons ou partages que je voulais vous faire. Peut-être le premier des deux, c'est sur la cookie jar des trucs durs. Alors en fait, il y a un livre de, comment il s'appelle, David Goggins, qui est Can't Hurt Me. Donc David Goggins, c'est un mec absolument taré aux US qui s'est découvert une passion pour l'ultra trail au moment où il a couru son premier, et pour les distances ultra, il a découvert ça au moment où il a couru son premier 100 miles, un peu sur un coup de tête, quoi. Donc mec ultra stylé, Navy Seal, blabla, enfin voilà, vous voyez le type de personnage. Si vous connaissez pas, tapez David Goggins, vous allez vite voir le type de loustique que c'est. Et en gros, dans son livre, Can't Hurt Me, il raconte un peu sa vie, par quoi il est passé et tout, enfin il a vraiment vécu des trucs de malade mental. Il a une vie, mais ça, même pas 100 fois plus dure que la mienne, genre 1 milliard de fois plus dure que la mienne. Et il parle d'un truc, c'est le cookie jar des trucs difficiles. Et en gros, il dit, chaque truc difficile que vous faites, vous devez le mettre dans un cookie jar, donc dans un bocal à cookies, quoi. Et comme ça, quand vous êtes à nouveau face à quelque chose de difficile, vous pouvez sortir ce cookie jar et vous dire, j'ai déjà accompli ci, ça, donc ce truc difficile-là, je vais pouvoir le faire facilement. Enfin, pas facilement, mais en tout cas, je vais pouvoir le surmonter. Et donc, bah, pour moi, le marathon, ça rentre à 100% dans ce truc de cookie jar, des trucs difficiles, dans ce genre d'expériences de la vie qui sont vraiment dures. Quoi qu'on en dise, genre, c'est vraiment difficile de courir 42 km. Qui plus est dans un temps correct, quoi. Mais déjà, les courir tout court, c'est ultra stylé. Et bah, je trouve que le fait de faire des trucs durs comme ça forme beaucoup sur la vie, sur ce qu'on est ensuite en capacité d'encaisser, de faire, sur l'ambition qu'on est en capacité de mettre. Et ce que je vous recommande, du coup, au-delà de faire un marathon, si vous avez l'opportunité d'en faire un jour, c'est vraiment stylé. Si vous voulez vous chauffer pour en faire un, je vous recommande de le faire. Enfin, si c'est un truc auquel vous pensez, juste passez à l'action. Prenez un dossard pendant 8 mois. Là, on est en avril. Je pense qu'il y a des dossards pour novembre qui sont toujours disponibles. C'est une bonne période pour courir un marathon. Il y a plein de marathons en octobre-novembre. Donc, si vous voulez vous chauffer, je vous recommande de le faire. Mais faites-le à fond. Entraînez-vous. Faites-vous une prépa et tout. Ça sert à rien de faire un marathon juste pour le kiff de « j'ai fait un marathon, machin ». Faites-le pour la personne que vous allez devenir, en fait, en faisant ça. Tous les gens qui disent « ouais, moi, je connais un mec qui... avait jamais couru et qui a fait un marathon, bon bah très bien pour lui, mais en fait c'est passé à côté de l'expérience du marathon, ça. Le marathon, c'est une expérience qui transforme, parce que c'est dur le jour J, mais aussi parce que vous êtes cogné des mois et des mois d'entraînement quand vous aviez pas envie et qui font pas du tout plaisir. Donc je vous disais, si vous avez envie de faire un marathon, faites-le. Arrêtez de procrastiner le truc, prenez en dossard et c'est parti. Et il y a plein de villes que vous pourrez découvrir comme ça. Moi, je connaissais pas La Rochelle, alors je l'ai plus ou moins découvert avec le marathon. J'ai plus ou moins envie d'y retourner de par cette expérience, mais ça vaut le coup. Donc voilà, prenez un dossard, allez-y. Mais au-delà de courir un marathon, juste faites des trucs durs, en fait. Il faut se mettre en danger, il faut aller chercher des trucs inconnus, des trucs un peu difficiles et y aller, quoi. Et vous mettrez ça dans la cookie jar des trucs difficiles, et quand vous y repenserez, vous serez en mode « Ah bah ouais, en fait, j'ai fait ça, là je fais face à un truc dur, mais j'ai déjà fait ça, en fait. Donc ça va le faire. » Et pareil, Théo Lyon, on a parlé un peu de ça dans son podcast, donc on a l'impression que je suis le fanboy numéro 1 de Théo Lyon, mais je vous jure que non. Mais en vrai, je trouve que son podcast est assez marrant. Je l'écoutais plus, et un pote m'en a reparlé. Et du coup, je l'ai réécouté et je trouve ça assez cool. Donc, bravo à lui. Mais il en parle de faire des trucs durs, d'à quel point c'est important pour lui. Il a fait tout un truc sur le genre ce qui entoure le fait de faire un truc difficile, en mode de quand date un truc difficile, qu'est-ce que c'était, comment est-ce que vous avez fait pour le surmonter. Enfin, il en parle très bien. Mais moi, je vais en parler de manière beaucoup plus simple. Juste, faites un truc difficile. Peu importe ce que c'est, essayez de faire en sorte que ce soit légal quand même, et voilà, mais poussez-vous, quoi. Faites un truc où vous dites « Putain, je pensais pas que j'étais capable de faire ça, et j'ai réussi à le faire. » Et vraiment, pour l'ego, c'est incroyable, et surtout, ça donne des options, en fait. Parce que la personne qui fait que des trucs faciles, elle a pas l'option de faire un truc difficile. C'est-à-dire que la personne qui court jamais, elle a pas l'option de faire un marathon. Mais la personne qui fait un marathon, elle a l'option d'aller courir un 5 km, un 10 km, un semi, sans problème, en fait. Genre, moi, demain, il faut courir 5 km, je suis pas essoufflé, en fait. Je suis en mode, ouais, pas de problème, ouais. Quoi, il faut courir parce qu'il se passe quelque chose de grave et il faut partir quelque part, pas de problème, je peux courir. Ou pour aller chercher quelque chose d'important, pas de problème. Ou je suis en retard, je peux courir, ouais. La personne qui court pas, en fait, qui a pas fait face à ça, bah, elle peut pas. Et donc ça, c'est une aptitude physique, mais je pense que c'est aussi une aptitude mentale. La personne qui ne fait jamais de trucs difficiles, bah, au moment où elle est frappée par quelque chose de difficile, parce qu'on est tous confrontés à un moment ou à un autre à une situation difficile, qu'on le veuille ou non, bah, en fait, la personne qui a l'habitude de choisir la difficulté et de s'y confronter, bah, c'est pas vraiment un problème pour elle. Alors bien sûr, elle est confrontée au truc, il va falloir qu'elle trouve des solutions pour s'en sortir, machin, mais elle est en mode ok, je vais y arriver, quoi. J'ai déjà surmonté des trucs durs, donc bon, bah, a priori, oui, c'est difficile, peut-être que je vais échouer et tout ça, mais le fait que ce soit difficile, c'est pas le truc qui va me choquer plus qu'autre chose, quoi. Donc voilà, donc faites des trucs durs. Et la dernière leçon que je voulais vous partager, c'était plus un petit coup de gueule. C'est ce truc de déification un peu des coureurs. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de vous dire, parce que j'étais en mode courir un marathon, c'est quand même très stylé, c'est un truc dur et tout, certes. Mais en fait, j'en ai un peu marre d'entendre des discours autour du running en mode les runners sont des héros, courir un marathon, c'est être une personne extraordinaire, machin. Oui, sur un certain point, mais tranquille en fait. Enfin, en fait, je suis mitigé parce que, à la fois, c'est un achievement qui est quand même très stylé, c'est pas tout le monde qui court des marathons et tout, mais à la fois, je pense que c'est quelque chose qui est très accessible dès lors que vous avez envie de le faire en fait. Et surtout, en fait, moi, il n'y a personne qui m'a forcé à le faire. J'ai pas besoin qu'on dise ouais, les marathoniens sont vraiment des gens trop stylés, nanana. Non, en fait, juste je kiffe courir. C'est pas du tout un supplice pour moi. Je prends du plaisir à ça. Ça me fait du bien. Ça maintient ma santé et tout. Je kiffe être dehors aussi quand je fais ça. Potentiellement, ça me permet de faire des balades plus grandes. Et bah certes, je me suis mis une échéance et tout, mais c'est pas du tout pour ça que je suis un héros, en fait. Très loin de là. Et donc, il faut arrêter de dire, les marathoniens, vous êtes des héros. Voilà. Bref, enfin, moi, c'est un truc qui m'a un peu saoulé. Genre, je sais pas trop ce que vous en pensez. Oui, c'est des trucs durs et tout, mais en fait, moi, en tout cas, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Et cette reconnaissance sociale de la course à pied, elle me pose un peu problème, parce qu'en fait... Je sais pas, moi j'ai plus l'impression d'être un mec dérangé quand je cours des volumes importants ou quoi, ou quand je vois des gens qui courent des volumes importants, je suis plutôt en mode waouh, ils sont chauds, c'est des malades et tout, plutôt que waouh, c'est des héros qui font des sacrifices énormes, blabla quoi. Voilà, ça c'est un truc qui me saoule un peu. Et puis j'aime pas trop, enfin je trouve que quand un truc est trop validé socialement, c'est qu'il y a un peu potentiellement un problème quoi. Et donc cette validation sociale autour de la course à pied, elle me met un peu mal à l'aise. Bref, je vais m'arrêter là, on en est à combien de temps? Elle est déjà 42 minutes. Ouais. Alors je vais aller un peu plus vite sur la suite. Donc la prochaine partie c'était je roast vos pancartes. Juste il y a quelques pancartes qui m'ont fait rire et que je voulais vous partager. Alors la première c'est la souffrance maintenant, la bière à l'arrivée. Alors ça je l'ai vu 10 000 fois. Ça suffit en fait, j'ai mal au bide, je suis au 35e kilomètre, je sais pas ce qui va se passer gastriquement parlant dans les prochaines minutes, arrêtez de me parler de bière à l'arrivée en fait, arrêtez de me parler même d'arrivée tout court, arrêtez de me parler en fait, tout court. Ouais, celle-ci elle est drôle une fois mais vraiment beaucoup vue sur le parcours, donc voilà. Et puis, il y a passé un moment où la bière elle motive plus, en fait. La bière, elle motive au kilomètre 4, en mode, ah ouais, on va prendre une bonne bière à l'arrivée. Au kilomètre 35, c'est plus du tout ce qu'on a envie. Donc, timez mieux, en fait. Et si vous voulez faire cette pancarte, mettez-vous dans les 10 premiers kilomètres, s'il vous plaît. Tap here for energy. Non merci. Non merci, je vais pas taper, en fait. Donne-moi un gel for energy, please. Pareil, beaucoup vu en vrai. Beaucoup vu. Ça suffit. Trop vu. Troisième, c'était souris, t'as payé pour ça. Ça me fait pas rire. Alors ça me fait pas rire du tout. Ça me fait pas du tout envie de sourire, d'autant plus que le marathon et les courses, j'ai l'impression que c'est de plus en plus cher. Marathon de Paris, je crois que là j'ai payé 200 balles parce que j'ai fait partie des derniers inscrits, machin, je m'y suis pris tard, blabla, j'ai dû prendre un pack avec les photos, machin, mais c'est pas drôle ça en fait. Hein. Je me suis levé un dimanche matin, j'ai payé 200 balles, c'est pas une raison pour me le rappeler en fait. Même si j'avoue, celle-là elle est un peu comique. Celle que j'ai le plus aimée, Pain is temporary, Strava is forever. Alors ça, quand j'ai vu ça, d'un coup, mon rythme au kilomètre, il a accéléré. D'ailleurs, ouais, si vous courez un marathon, renommez votre course à pied sur Strava. Laissez pas course à pied le matin. S'il vous plaît. Soyez décent. Et voilà, mais Pain is temporary, Strive is forever. C'est extrêmement vrai, c'est la pancarte que j'ai le plus aimée. Les enfants qui tendent la main aussi, ça c'est toujours très mignon. Ça fait toujours plaisir de les voir soutenir des gens et tout. C'est des belles valeurs. D'aller soutenir une course comme ça avec des enfants, c'est sympa. J'ai pas du tout tapé dans la main de tous les enfants, sorry for that, mais c'était toujours marrant à voir. Et je rose vos pancartes et je vous en parle en rigolant comme ça, mais en vrai c'était très cool de voir ces pancartes et qu'il y ait du monde et tout ça. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais ça contribue quand même pas mal à l'atmosphère de course et à se pousser, quoi. Donc merci d'avoir été présent, même si toutes vos pancartes n'étaient pas bonnes à prendre. Il y en a pas qui m'ont fait exploser de rire. Par rapport à ce que je vois parfois sur Instagram, il y en a pas qui étaient vraiment exceptionnels. Mais bon. Bon, donc je vous le disais, on se dit toujours que c'est le dernier marathon, mais ce sera pas du tout le cas pour moi. Je referai un marathon, juste pas tout de suite. Je pense que je vais laisser passer une bonne année avant de me remettre là-dedans. Là, j'ai envie d'avoir d'autres objectifs intermédiaires qui contribueront plus tard à faire un marathon plus vite. Mais mon prochain objectif pour moi serait de faire un semi-marathon, donc 21 km, mais cette fois-ci avec un temps plutôt stylé pour moi. Donc j'aimerais bien faire. C'est difficile de s'engager maintenant parce que j'ai pas du tout commencé de prépa, de planning et tout, mais j'aimerais bien aller taper 1h30 sur un semi-marathon. Donc c'est une bonne allure quand même, c'est même une très bonne allure. J'ai vu qu'il y a le semi de Boulogne en novembre. Je me dis que ça peut être pas mal. Ça peut être une bonne target. Apparemment, c'est un semi qui est assez rapide. Novembre, ça laisse le temps. Ça se regarde. Voilà. Bon, ça pourrait être du solide. Bref, écoutez, je vous propose de faire une petite pause et on passe sur la partie 2, le nouveau projet sur lequel je travaille en ce moment. Ok, donc je vous en parlais au cours des dernières semaines, je vous disais que je pouvais pas trop vous dire ce que c'était, mais que c'était important, que ça allait être cool, blabla. Et donc je peux enfin vous annoncer ce que c'est. Donc, après moult discussions et rebondissements, je suis devenu CEO de Oria Marine au début du mois de mars. Donc Oria Marine, c'est une entreprise, une naval tech, donc on est une entreprise dans le maritime, et en fait on a conçu un boîtier connecté qui se branche sur des bateaux et qui permet plein de choses, mais notamment de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2, mais aussi d'améliorer la sécurité du bateau, de contribuer à la maintenance, etc. Donc on a un modèle où on installe le boîtier sur les bateaux de nos clients et ensuite bon, on monitore tout ça, on leur fait des rapports, ils ont accès à un espace personnel, etc. Et tout ça sous le modèle d'abonnement. Donc c'est pour ça que quand je vous parlais de MRR, c'était important. Et donc ça fait à peu près un mois et demi maintenant que j'ai commencé. Ça se passe plutôt pas trop mal pour l'instant. On avance à peu près sur beaucoup de sujets. Je suis en ce moment à hier parce qu'on participe à la semaine olympique française, mais je vous en reparlerai un petit peu après. Et pendant un mois et demi, en gros, mon boulot, ça a été de rencontrer le plus de monde possible, déclencher les premiers revenus, comprendre les besoins du client, enfin vraiment faire ce boulot de début de boîte, poser les valeurs sur lesquelles on a envie de dimensionner notre entreprise, quelles sont les ambitions, quels sont les marchés, et surtout aller voir les gens, quoi. Je pense que ma deuxième semaine, je suis parti en déplacement dans le sud. La troisième semaine, j'étais en Bretagne. Là, je suis ailleurs depuis 3 jours et j'y reste encore 10 jours. Donc voilà, juste aller voir un max de monde possible, parler à l'industrie le plus possible pour faire un truc cool. Mais donc je suis très content et je pense qu'on va faire un gros truc avec cette boîte. Vraiment, j'y crois beaucoup. Le marché est vraiment ultra stylé. Il est profond, il a des besoins qui sont très clairs, et en fait le constat qu'on fait c'est que l'électronique d'un bateau c'est limite digne de la Clio 1 si ce n'est avant, quoi. Et ça c'est un peu un scandale, d'autant plus que les marins ont toujours été les pionniers des grandes découvertes du monde, et donc là mon objectif c'est vraiment de les ramener là où ils devraient être, en équipant mieux leur bateau, en leur donnant plus d'insight, plus d'infos, et vraiment en utilisant de la donnée qui était under-leveraged jusqu'à présent. Donc voilà, c'est le début de l'aventure. Je vais vous documenter tout ça sur LinkedIn évidemment, sur Instagram aussi, suivez-moi. Et je pense vraiment qu'on peut faire un gros truc. Donc je suis assez content parce qu'on a signé quand même des premiers clients, donc ça c'est encourageant. Maintenant, le challenge, c'est de livrer le produit et d'augmenter notre base de clients, quoi. Donc, comme toutes les boîtes, développer le produit, développer le commerce. Et on va y aller à fond. Et je vous le dis, je pense que ça va être assez gros assez vite. Donc voilà. Donc si vous connaissez du monde dans les bateaux, envoyez-moi un message. Si vous pensez que vous pouvez m'aider, envoyez-moi un message. Si vous voulez juste en parler même, envoyez-moi un message. Mais voilà, je suis très content de vous annoncer ça. On va en parler ensemble de plus en plus dans les prochaines semaines. Je peux enfin vous dire qu'on est un boîtier qui se mange dans les bateaux. J'espère que les précédents chapitres du coup font un peu plus de sens, mais voilà, ça se passe plutôt bien pour l'instant et je pense qu'on va vraiment faire un gros truc. Et donc du coup, il est temps pour moi de vous résumer mes deux dernières semaines. Donc juste après le marathon, je suis parti à Dubaï, vraiment le lundi, couru le marathon le dimanche, je prenais l'avion le lundi à 13h. J'ai pas encore la possibilité de voyager en business, donc je voyageais en économie. Comment vous dire que j'ai regretté, mais alors amèrement. Non pas que je me prenne pour quelqu'un qui a absolument besoin de voyager en business, mais là je peux vous dire que mes jambes, elles s'en rappellent encore, et que vraiment le mardi en particulier, quand je marchais dans des descentes, mais alors j'étais dans un état, c'était horrible. Mais bon bref, donc je suis parti à Dubaï juste après parce que j'ai acheté un distributeur de verre à vin. Donc ça c'est un peu une side quest, mais vous savez que je suis passionné par le vin, je fais un post LinkedIn par semaine sur le vin, et j'ai un podcast surtout sur le vin dans lequel je rencontre des gens qui sont absolument incroyables, et il se trouve que j'ai acheté un distributeur de verre à vin, donc on distribue deux marques, deux verreries à très haut de gamme de vin, enfin de verre à vin plutôt, c'est vraiment des très très beaux verres, et on les distribue notamment aux Émirats, notamment pour les projets d'hôtels et de construction qu'il y a sur place, et donc il fallait que j'aille voir un peu ce qui se passe là-bas. Donc j'ai pris un avion, j'ai filé pour Dubaï pour y passer quelques jours. C'était très cool de rencontrer les gens sur place et de passer un peu de temps avec les personnes de cette entreprise que j'achète, parce que bah, ça fait quand même la diff. Même si pour moi ça reste un side quest et c'est, je le vois plus comme un investissement que comme quelque chose dans lequel je suis opérationnel, même si je pense que je peux apporter un peu de valeur, mais c'est pas du tout mon élément numéro 1. Mon élément numéro 1, c'est d'être CEO de Doria Marine et de porter cette entreprise le plus haut, le plus vite et d'en faire la plus grosse boîte possible. Mais c'était quand même important pour moi d'aller passer quelques temps là-bas. C'est une ville sur laquelle je suis très très mitigé, Dubaï. J'y ai pas passé suffisamment de temps, je pense, pour apprécier la vie sur place. C'est une ville qui est assez marrant. Alors le timing pour moi était pas optimal pour rencontrer des personnes là-bas, puisque c'était les vacances de l'Eid, donc c'était la fin du Ramadan. Je voulais pas y aller pendant le Ramadan, déjà parce que j'étais en prépa marathon et je me voyais pas aller passer 3 jours là-bas, 3-4 jours là-bas pendant ma prépa marathon, quoi. Ou la semaine avant mon marathon, enfin je voulais pas me cogner de l'avion avant, être fatigué et tout. Parce que c'était Ramadan, donc on m'avait dit qu'il y avait pas grand monde, mais en fait on m'avait pas précisé que juste après Ramadan c'était les vacances. Je me suis un peu fait trappe par ça, même si j'ai quand même pu rencontrer quelques personnes, mais j'ai pas rencontré beaucoup de locaux entre guillemets et de personnes qui sont émiratis, quoi. Ce sera pour une prochaine fois. J'ai quand même pu rencontrer des personnes cool, donc tant mieux. Et ensuite, la ville est... Ouais, je suis assez mitigé. En fait, c'est marrant parce que je suis très mitigé sur Paris, de plus en plus, parce que souvent je rage parce que je trouve que Paris, c'est une ville qui est trop petite pour le nombre d'habitants. Enfin, trop petite ou pas suffisamment dense, mais qu'en tout cas, tu vois, à un moment donné, il y a des bouchons sur les pistes cyclables, ça suffit, quoi. Les métros sont bondés, il y a pas de voie de circulation, les pistes cyclables sont... Il y a des bouchons sur les pistes cyclables. Parfois, il y a même des bouchons sur les trottoirs. Stop, quoi. Genre, à un moment donné, il faut faire une ville qui est dimensionnée pour y habiter. Et moi, j'en peux plus de ça. Quand je vais à la piscine et que je peux pas nager sans toucher les pieds de la personne devant moi, j'en peux plus, en fait. Donc ça rend ouf. Et en fait, parfois, quand je suis dans Paris, je pense à Haussmann, parce que bah du coup, avec les bâtiments, c'est dur de pas y penser. Donc Haussmann, c'était le préfet de Paris, c'était un des préfets de Paris au 19e siècle, et c'est lui qui a décidé de péter trois quarts de Paris, et de faire des grandes avenues, avec des bâtiments à six étages, enfin cinq étages, une chambre de bonne, pour des questions de salubrité, d'ordre public, et d'architecture, quoi, de place. Et en fait, je me dis, au 19e siècle, quand Haussmann a pété trois quarts de Paris pour en faire un truc où c'était beaucoup plus facile de circuler et tout, ça a dû être une révolution, en fait. Les gens ont dû dire, mais waouh, il y a de l'espace, c'est quoi cette quatre voies au milieu du boulevard de l'Opéra, de l'avenue de l'Opéra, on peut mettre six charrettes de chaque côté, c'est quand même un truc de ouf, machin. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un truc qui nous manque beaucoup en France, cette mentalité un peu de bâtisseur ou de changer l'ordre établi en mode, en fait, on va casser ce qui existe et on va faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que souvent, on essaie de réparer des fissures, et on le voit dans tous les discours politiques, c'est en mode, il y a un déficit là, donc on va essayer de faire comme ci, comme ça, et en fait, on crée des trucs horribles, quoi. Alors il faudrait parfois juste dire, vous savez quoi, on coupe tout, on recommence de zéro. Et on le voit dans d'autres trucs, hein, dans des boîtes un peu anciennes, des trucs comme ça, enfin... C'est des schémas qui se répètent pas mal. Et en fait, Dubaï, c'est beaucoup plus neuf, beaucoup plus nouveau. Donc, y a une douze voies, en fait, au milieu de la ville. Y a des buildings qui font 45 étages partout. Donc, ce qui m'a frappé d'abord, c'est que c'est une ville qui est conçue pour le 21e siècle et pour de la densité du 21e siècle. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et c'est pas quelque chose auquel nous on est très habitués à Paris, parce que, en fait, à Paris, alors les choses passent à l'intérieur, il y a des boutiques, il y a des trucs, mais en fait, on voit. De l'extérieur, on voit que tel endroit c'est un resto, que tel endroit c'est une boutique. Enfin, là, en fait, il faut d'abord rentrer dans un endroit, genre dans un mall, dans une tour, peu importe, et ensuite on voit ce genre de choses. Et donc c'est assez bizarre, c'est assez contrasté, parce que de l'extérieur on voit pas du tout ce qui se passe, on pense que c'est un building, on pense même que c'est un enchaînement de buildings, et en fait quand on fait l'effort de rentrer à l'intérieur, ensuite c'est une ambiance qui est totalement différente. Et donc ça m'a un peu frappé, et ça m'a notamment beaucoup frappé à DIFC, pour les personnes qui connaissent, donc qui est le Financial Center de Dubaï, de patrimoine du Burj Khalifa, un peu au-dessus, où en fait, moi, je savais pas ce que c'était, en fait. Enfin, j'étais en mode, j'ai un rendez-vous là, comment je fais pour rentrer et tout, donc je peux chercher. Et après, je rentre dans le truc. Et en fait, là, je comprends que à l'intérieur, on est toujours à l'extérieur, en fait. On est entre des tours, machin. Et qu'en fait, c'est assez cool. Donc voilà. Donc ça m'a assez marqué. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que la ville est pas du tout walkable. Alors, c'est pas du tout fait pour marcher. Loin de là. Et c'est pas du tout fait non plus pour se déplacer de quartier en quartier. C'est-à-dire que moi, mon hôtel était à Marina. En fait, c'est gigantesque. Entre Marina et le Burj Khalifa, il y a genre 30 km. C'est fait pour rester dans une communauté, à un endroit. Éventuellement, aller pas trop loin et tout. Mais c'est pas du tout fait pour traverser la ville. C'est vraiment, vraiment très, très... Enfin, les distances sont vraiment très grandes. Ça m'a pas mal marqué, ça c'est un truc que j'aime pas trop, moi j'aime beaucoup les villes qui sont walkable, quoi. Paris pour ça, je trouve que c'est génial, enfin, je peux marcher depuis chez moi, je marche dans mon quartier, c'est trop cool, il y a plein de trucs, je peux facilement aller à un autre endroit, si j'ai pas envie de prendre les transports, en 40 minutes à pied, je suis quelque part, ça m'arrive souvent de rentrer de dîner, de soirée à pied, quand il y a plus de transport et que j'ai pas envie de prendre des vélos, en fait je rentre à pied et ça me met rarement plus de 40 minutes et ça me fait une petite balade, quoi. Ça c'est pas possible à Dubaï, clairement. C'est en mode voiture taxi, mais c'est pas du tout en mode je vais marcher, quoi. J'ai fait l'erreur de marcher à un moment donné, je pensais que les distances étaient courtes, pas du tout, et c'était un enfer. J'ai traversé plusieurs fois des 8 voies, enfin c'était l'enfer. Donc voilà, alors après tout ça c'est à nuancer, parce que comme je vous le disais, j'étais dans un moment de vacances, donc il y avait pas grand monde. Par exemple, ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y avait pas du tout de trafic, il n'y avait pas du tout d'embouteillage. Et je t'en dis, c'est fou, il y a une douze voies, La ville est vraiment conçue pour ça, c'est trop bien. Et en fait, après, en discutant avec des gens qui habitent sur place, ils me disaient oui, mais là, c'est exceptionnel parce que c'est les vacances. Normalement, c'est blindé de voitures et tout. Donc, moi, j'ai vécu une expérience qui était assez smooth. Pas d'embouteillage, facile d'aller d'un point A à un point B, même s'il faut se déplacer en voiture, en taxi et tout. Je suis pas sûr que ce soit le cas au quotidien. Et ensuite, ouais, non, ensuite, j'ai trouvé que la vie était assez facile. Enfin, tout est. Il n'y a pas de bug en fait. Ça, c'était assez cool. Je sais pas, pareil, si c'est le cas au quotidien ou pas, parce que quand on y reste quelques jours, c'est difficile à apprécier. Mais quand on prend un taxi, c'est facile, il y en a un tout de suite, tac, on paye facilement. Ce qu'on a à manger, ça vient en 30 secondes. Enfin, vraiment, tout était vraiment très, 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 très smooth. Donc voilà, à l'aéroport, très peu d'attente. Enfin, ça, c'est assez impressionnant. Par contre, le truc que j'ai moins aimé, c'est que c'est une ville qui est très tournée sur l'entertainment, pardon, et sur le pay to play. Donc par exemple, moi j'aime beaucoup l'art et les musées de manière générale. On a déjà parlé d'art ensemble dans ce podcast. Pour moi, c'est un sujet qui est important. J'aime bien le théâtre, j'aime bien la musique, j'aime bien les musées. Alors, c'est pas pour ça que j'y suis tous les jours et tout, mais quand il y a une belle expo, j'aime bien aller la voir. Essayer d'aller la voir en tout cas. En fait, à Dubaï, j'ai pas vu de musée. Alors, je crois qu'il y a le Louvre à Abu Dhabi, mais bon, qui est à 1h30 du coup. Mais à Dubaï, il n'y a pas l'air d'avoir une vie culturelle en tant que telle qui soit stimulante. Genre, l'incentive n'est pas sur l'artistique. Et en fait, l'organisation de la ville est plutôt destinée à capter le plus de valeur possible par de l'entertainment, justement, par des activités, plus que par un musée, par des concerts, des trucs comme ça. Et du théâtre, peu importe. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que c'est du pay-to-play. Et pay-to-play, ça veut dire il faut payer pour avoir accès à quelque chose. Et alors, c'est le cas dans beaucoup de choses dans la vie, hein, c'est pas le sujet. Mais par exemple, à Paris, moi, il y a des journées où je paye rien. Enfin, j'ai à manger chez moi. J'ai prévu d'aller à la salle de sport, faire une balade, travailler sur des trucs et manger chez moi. Bon, bah, en fait, certes, j'ai payé, mais parce que j'ai des abonnements, j'ai fait mes courses, mais je veux dire, j'ai pas dû payer une activité, quoi. J'ai l'impression qu'à Dubaï, ça n'existe pas vraiment. Alors, enfin, si la salle de sport, vous avez votre abonnement, mais en fait, il n'y a pas de je vais sortir faire une promenade, ça n'existe pas. C'est je vais sortir pour aller au golf, je vais sortir pour aller sur tel rooftop, je vais sortir pour faire tel truc. Mais en fait, c'est toujours je vais sortir pour aller sur un endroit de la map, pour aller faire telle quête, telle side quest, telle activité. Et ça, j'aime pas trop. Enfin, moi, j'aime bien parfois juste flâner, marcher, quoi. Écouter un podcast en marchant. Voilà. Donc, ouais. Donc, ça, c'est bizarre. Mais voilà. Bon, après, j'ai pas trop d'avis autre que ça. Il y a quand même des endroits qui sont très cool. Il y a un niveau de service qui est quand même bien supérieur à ce qu'on peut connaître en France, dans beaucoup d'endroits. Ça, c'est quand même cool. Pour tout vous dire, à l'aéroport, ils vous filent une carte SIM avec 1 giga de data. Alors, bon, on fait pas grand chose avec 1 giga, mais bon, c'est quand même cool. Bon, moi, j'ai pas utilisé parce que je voulais pas mettre cette carte SIM dans mon téléphone et parce que j'ai un abonnement de téléphone déjà qui me permet d'avoir un peu d'internet. Mais la douane française remet pas une carte SIM aux personnes qui visitent la France, je pense. Donc voilà. Donc mitigé sur Dubaï. Globalement, j'ai plutôt apprécié l'expérience. Maintenant, je pense pas que ce soit une destination dans laquelle j'ai envie d'habiter. J'irais bien, potentiellement, si j'avais vraiment le choix, c'est peut-être le genre d'endroit dans lequel j'aimerais bien passer un mois par an, quoi. Parce que c'est quand même cool. Enfin, tu vois, je pense que tu y vas au mois de janvier, t'es pas mécontent. Genre, il fait bon, voilà, mais de là à y habiter, même pour des raisons fiscales et tout, franchement. Là, comme ça, j'ai pas maxi envie. Mais bon, peut-être que ça changera avec le temps. Je ne sais pas. Donc ensuite, rentrée de Dubaï, semaine olympique française et Oria Hacker House. Donc en gros, on a signé un contrat, un partenariat avec le World Sailing, qui est la fédération internationale de sport nautique, et avec la fédération française de voile, pour équiper les bateaux qui entourent une compétition qui est dans le sud de la France, qui s'appelle la Semaine Olympique Française, pour équiper tous ces bateaux de notre boîtier, du boîtier Oria. Et l'objectif, c'est de récolter toute la donnée de navigation, d'émissions de CO2, pour leur donner les recommandations pour diminuer leur consommation, pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone, etc. En gros, le point de départ, c'est what gets measured gets done. Et donc là, il faut d'abord mesurer pour arriver à quelque chose. C'est un projet qui est assez intense pour nous parce qu'on équipe près de 200 bateaux, ce qui n'a jamais été fait chez Oria. Et donc on a dû beaucoup beaucoup travailler pour préparer ça. Et même sur place, on a un niveau d'intensité qui est vraiment très élevé. Les 4-5 derniers jours avec l'équipe, on fait des journées de 7h à minuit sans problème, quoi. Donc c'est assez stylé, très stimulant. Il y a beaucoup d'intensité dans ce qu'on fait. C'est à la fois agréable et c'est à la fois une galère, hein, parce qu'il y a des trucs qui se passent bien, des trucs qui se passent moins bien. Par exemple, on a une galère de câbles, de connecteurs et tout, donc là demain je dois faire un aller-retour à Marseille super tôt et tout, mais bon bref. Ça se passe très bien, donc tant mieux, et c'est cool d'avoir ce niveau d'intensité. Et c'est top d'avoir ce premier client aussi. Enfin, pour nous, c'est une super référence. On est quand même dans un événement olympique, donc il y a des gens, je pense, de 90 pays, des nationalités de ouf, des gens qui sont à un niveau de malade dans les bateaux et dans le sport nautique de manière générale. Donc c'est assez impressionnant. C'est un peu une coupe du monde, quoi, à l'échelle de la voile. Donc c'est assez impressionnant de voir ça. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Enfin, ça a été la priorité, et c'est encore la priorité là pour les semaines qui viennent. Mais assez incroyable de préparer ça, et c'est assez incroyable aussi d'être sur place et de le vivre. Et demain, normalement à 14h, je vis un départ d'une course depuis un bateau, donc j'ai hâte d'y être. Et ensuite, on a des sujets commerciaux qui sont en cours. On a notamment un gros appel d'offres sur lequel on est en phase finale, qui a été une de mes grandes priorités récemment. Et là du coup, c'est la fin, et il nous reste quelques semaines encore de négo et tout, mais je croise les doigts parce que c'est vraiment un gros projet et ça me tient bien à cœur, donc j'espère que ça va le faire. J'essaie d'accélérer un peu. On passe au niveau sport. Donc j'ai bien repris le sport après le marathon. J'ai fait une semaine avec deux séances. Donc la semaine qui a suivi le marathon, j'ai fait deux séances de muscu. Au lieu de trois, je voulais y aller tranquille et pas de cardio. Cette semaine, j'ai fait trois séances et une heure de vélo. Donc là, c'est une semaine qui est plutôt propre. Et là, la semaine qui vient, je vais reprendre un petit peu de course à pied. Je vais faire, je pense, en tout 10 km. Sûrement en deux sorties. Et trois séances de muscu. Donc, ça se passe bien, bonne reprise. J'ai plutôt une bonne nutrition, ça va encore. Enfin, ça va même plutôt pas mal. Donc, assez content de tout ça. Et j'ai réussi à bien caler les séances malgré l'intensité de ces semaines. Enfin, je dis malgré, mais c'est plus malgré dans l'organisation, parce qu'en vrai, je suis assez content de cette intensité. Mais ça n'a pas été facile de caler les séances, mais ça s'est plutôt bien passé, donc tant mieux. Et enfin, hier, j'étais au concert des Black Eyed Peas à Paris, et ils ont vieilli, et nous aussi. c'est le constat, mais en vrai, c'était sympa. C'était un bon concert, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec ma copine, c'était vraiment sympa. Ils ont quand même fait des titres, les Black Eyed Peas, ils ont quand même fait des dingueries. Hein. Je vais pas vous chanter là au micro parce que ça va pas bien rendre, mais ils ont quand même fait des titres qui sont des trucs de ouf, quoi. Mais bon, bon concert, il y a des choses à redire, j'en enverrai un message pour les tenir au courant. Voilà, je vous en dis pas plus parce que ça a pas tant d'intérêt que ça en vrai. Je suis content de vous partager que j'y étais. Mais ouais, ça a pas énormément d'intérêt. Je vous propose plutôt de passer à la partie 4, le débrief du livre de Pierre Berger, parce qu'il est déjà 23h30 de mon côté. Donc j'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer sur une partie qui a un peu plus de valeur que de vous débriefer un concert. Alors, le livre de Pierre Berger, donc c'est Mathieu qui me l'avait recommandé, que je salue, je sais qu'il écoute parfois ce podcast. Et j'ai vraiment kiffé. Je relisais un peu mes notes pour vous donner tout ça. Donc, déjà, j'ai trouvé que c'était assez agréable à lire parce que c'était un format d'entretien. Donc c'est plutôt cool, parce que c'est un style qui est assez oral. C'est un peu un podcast à l'écrit, quoi. Donc c'est assez sympa. Et c'est agréable de lire quelqu'un d'aussi cultivé et qui a eu un parcours aussi ouf. Parce qu'il s'exprime super bien, il a des références incroyables, et en même temps il parle de son parcours qui est spectaculaire. Donc ça fait beaucoup de qualité pour une personne qui s'exprime. Ce qui est ouf, c'est aussi qu'il nous relate une époque où le business paraît complètement différent. C'est-à-dire qu'on faisait du business en voyageant, en rencontrant des gens, en créant. Enfin, il y avait vraiment une dimension de créativité énorme, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. Enfin, ce qui, je pense, est toujours le cas sur vraiment faire du business, mais ce qui a été un peu dilué par d'autres visions, d'autres manières de faire, enfin, qui a été un peu trahi, en fait. Et moi, c'est ce qui me pose problème, c'est que cette créativité, le fait de créer quelque chose de nouveau, de faire jaillir quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été trahi par l'entrepreneuriat, alors que ça en est le cœur. Et que c'est pas parce qu'on fait du SaaS ou parce qu'on fait du B2B, machin, que on peut pas avoir cette dimension de créativité, de création de quelque chose de nouveau. Et voilà. Et donc Pierre Berger illustre vraiment ça. Il illustre une période où on faisait du business, ouais, en partant à la rencontre, en partant à l'aventure, en fait. Et ça, je trouve ça ouf. Et souvent, avec Morgan, que j'embrasse aussi, on parle du web 0.0. Donc, on entend souvent parler du web 4.0, de intelligence artificielle, réalité virtuelle, réalité augmentée, machin. Nous, parfois, on parle du web 0.0, c'est-à-dire rencontrer des gens et faire des trucs. Et en fait, ça, c'est cool. Rencontrer des gens, faire des trucs. En fait, c'est comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai envie de faire des choses dans la vie, quoi. Donc, pour moi, le livre de Pierre Berger illustre plusieurs points. Il illustre le fait qu'il faut faire des choses qui ne servent à rien. Et surtout, il faut faire les choses qu'on a envie de faire. Alors, je vous dis pas de pas faire les choses que vous avez pas envie de faire. Hein. Courir 42 km. Bon, vous avez peut-être envie de le faire, mais vous avez peut-être. Il y aura des moments où vous aurez pas envie de le faire. C'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. Mais il faut faire des choses qui ne servent à rien. Pas tout le temps, évidemment. Mais il faut faire les choses qu'on a envie de faire. Et en fait, des choses qui peuvent paraître dénuées d'intérêt, d'utilité économique, sont souvent remplies d'utilité spirituelle, personnelle, sociale, peu importe. Mais c'est ce qui nous remplit, en fait. Je vous l'ai déjà dit, apprendre des poèmes, c'est un bonheur. Et apprendre des poèmes, ça sert à rien. Donc voilà, donc faites-le. Il faut oser, il faut saisir la vie et kiffer ce qu'on fait. Et quand on lit l'entretien là, de Pierre Berger, on sent que c'est une personne qui a pas fait tout ce qu'il avait envie de faire, qu'il aurait pu faire plus, qu'il aurait aimé faire deux, trois trucs différemment et tout ça quand il y repense, machin. Mais en tout cas, il ne semblait pas vivre avec des regrets ou avec le sentiment de pas être allé au bout. Il a peut-être parfois le sentiment de ne pas avoir eu le résultat qu'il voulait, mais il n'a pas le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il voulait. Et ça, c'est top, quoi. Quand on lit quelqu'un qui se retourne sur sa vie et qui partage ça, qui partage ces sentiments-là, c'est un plaisir. Et moi, c'est le type de sentiment que je veux pouvoir partager à la fin de ma vie, j'espère. C'est d'être allé au bout de ce que je voulais faire. De ne pas avoir de regrets. Donc, c'est agréable à lire. Et le troisième point, c'est que je retiens de Pierre Berger que la culture, au sens large, le cinéma, la musique, la littérature et tout ça, c'est quand même très cool. C'est top quand même. Alors certes, ça sert beaucoup à flex et tout, mais surtout, tu sens que ça le fait passer à un autre niveau, que ça le fait se poser des questions différentes, que ça le fait appréhender le monde différemment. Et que c'est quand même un truc de sacré beau gosse d'avoir toute cette culture et toutes ces références littéraires, artistiques, etc. Je vous ai préparé quelques citations en pagaille pour vous finir ce livre de Pierre Berger, qui sont quelques citations que j'ai bien aimées, que je vais plus ou moins commenter. L'objectif, c'est que je vous fasse ça de manière assez rapide. Mais c'est des petits passages qui m'ont fait rire. Alors, je vais pas vous dire à chaque fois, il a dit, vous allez reconnaître. Donc, il a écrit « Le destin, il faut le prendre au collet et le courber. » Je trouvais ça très drôle, enfin, dit de manière assez marrante. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Hein. Il a dit « Un artiste n'a pas d'inspiration. Il peint, écrit, sculpte comme d'autres vont faire leur boulot dans une école ou une boulangerie. » Ça, j'ai bien aimé. Parce qu'il dit deux choses. En gros, il parle de l'inspiration et après, il dit de faire des choses. Et ben, en fait, c'est en vigueur pour beaucoup, beaucoup de métiers, de professions, de choses qui vous donnent envie. En fait, il y a personne qui est peintre. Il y a des gens qui peignent et qui, du coup, sont peintres. Il y a personne qui est entrepreneur. Si ce n'est des mecs qui vendent des fake formations là, sur YouTube ou sur Insta, qui mettent entrepreneur dans leur bio. Faudrait que je vérifie si moi j'ai pas entrepreneur dans ma bio. Mais ça, je vous vends rien, donc c'est ok. Mais en fait, il y a personne qui est entrepreneur. Il y a des gens qui entreprennent, qui créent des entreprises et qui du coup sont entrepreneurs. Et donc, la première chose, c'est qu'il faut faire. Point. En fait, si vous voulez être peintre, bah, il faut peindre. Et je sais que c'est bête hein, de le dire comme ça. Mais si vous voulez être un athlète, bah, il faut faire du sport. Et en fait, vous n'allez pas devenir un athlète sans le faire. Si vous voulez être podcasteur, il faut podcaster. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut le faire. Comme on fait un travail, c'est-à-dire tous les jours, de 9h à 19h minimum. C'est-à-dire avec un commitment maximal. Vous savez, dans vos contrats, c'est écrit, dans vos contrats de travail, c'est écrit que vous avez un contrat de travail exclusif, machin, en général. Bah en fait, c'est ça. Si vous voulez faire quelque chose, bah, il faut le faire, mais il faut le faire à fond. Il faut pas attendre l'inspiration, le bon moment, machin. En fait, le peintre, il attend pas l'inspiration. Le peintre, il peint. Et parfois, bah, il est pas content de ce qu'il peint, il jette. Et c'est pas grave, ça fait partie de la création. Mais par contre, tous les jours, bah, il est en train de peindre. Et les auteurs, c'est pareil. Hein. Les auteurs, il y en a certains qui écrivent plus ou moins tous les jours, mais tous les jours, ils écrivent. Et vous allez me trouver une exception, machin. Je vous la réfuterai en disant que c'est une exception. Donc, si vous voulez devenir quelqu'un ou quelque chose, bah faites-le tous les jours et ça va fonctionner. Quatrième citation, tout ce qui ne sert à rien sert à tout. Ça, je vous en ai déjà parlé sur pourquoi est-ce qu'il faut apprendre des poèmes. Dans la vie, personne ne paye pour avoir le droit de se taire. Alors ça, j'ai trouvé ça assez marrant parce que c'est un moment où il partage le rachat du monde. Et j'ai trouvé ça drôle comme citation, et je ne manquerai pas de l'utiliser. Il ne faut pas que mes investisseurs m'entendent maintenant, parce que du coup, ils vont vouloir avoir envie de beaucoup me parler. Mais c'est vrai que personne ne paye pour avoir envie de se taire. Donc quand vous prenez de l'argent, quand vous acceptez que quelqu'un vous confie de l'argent, vous créez une dette qui est monétaire, bien sûr, mais vous créez aussi une dette, la plupart du temps, morale. Ouais, morale. Où il va avoir une dette, enfin, il va avoir il va avoir le droit de vous dire des choses et vous devrez accepter certaines choses que vous n'auriez pas acceptées dans d'autres situations. Et ça, d'ailleurs, c'est souvent les pires des situations, c'est quand vous devez de l'argent à quelqu'un et que vous pouvez pas lui dire non à un truc ou être trop brutal avec lui parce que vous devez le ménager. Certains VC se reconnaîtront, peut-être. Je plaisante, moi j'ai jamais eu ce cas-là, mais... J'ai eu la chance de toujours avoir des investisseurs qui étaient plutôt favorables à ce qu'on faisait et qui ont jamais été ultra chiants sur notre conduite des opérations. Mais je me doute que ça peut être le cas parfois et que personne ne paye pour avoir le droit de se taire. Donc quand vous payez, c'est normal d'avoir la voix au chapitre. Modulo, si vous filez 1000 balles à un copain pour son entreprise, ou si vous mettez 100 euros sur Lita, Tudigo, ou je ne sais quelle plateforme de fundraising dans une boîte. Auquel cas, là, vous n'avez pas le droit au chapitre. Si vous avez filé 1000 balles à un copain, juste considérez que vous avez filé 1000 balles à un copain et pas que vous avez vraiment investi dans sa boîte. Ça vous facilitera les relations ensuite. Et si vous avez investi 100 euros sur Lita ou Tudigo, et que vous pensez que vous avez droit au chapitre, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, ne mettez pas sur LinkedIn cet investissement, s'il vous plaît. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi, ça m'exaspère. Bref, Pierre Berger, il parle pas de ça. Si ça vous embête que ça m'exaspère, tant pis pour vous, et je pourrais vous le démontrer en deux points de pourquoi c'est une aberration. Ensuite, il dit « Je me moque de ce qu'on dit de moi, quitte à paraître orgueilleux, je pense profondément que ceux qui ne m'aiment pas sont des cons. » Ça, c'est cool, hein, quand même. Franchement, pouvoir le dire comme ça, je trouve ça très stylé. Et je pense la même chose. Ça, c'est dit. On ne reproche qu'à ceux qui ratent. Ça, c'est intéressant. Hein. Ça, c'est intéressant. On pourra revenir dessus. Et alors, on ne reproche qu'à ceux qui ratent. Et à l'inverse, on ne souhaite pas toujours le succès des gens. Mais quand le succès arrive, c'est quand même la meilleure leçon, en fait, qu'on peut donner à tout le monde. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur la personne qui me croise sur le marathon et qui dit « Ah, mais j'y crois pas, c'est Antoine Déféré », bah ouais, en fait. Et en fait, ça, c'est une leçon. En fait, ça, ça a plus d'efficacité qu'un post Instagram de moi en train de courir. Me croiser moi au 30e kilomètre, bah en fait, c'est plus stylé que de me voir sur Instagram. Et ça contribue plus à valider un succès qu'autre chose. Et enfin, personne ne m'a appris à admirer et j'ai tout découvert par moi-même. Donc là, il parle de l'art, de la culture et tout ça, et bah, je trouve ça assez cool. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'il a quand même des goûts qui sont très tranchés, il en parle beaucoup à la fin, de ce qu'il aime bien dans la littérature, ce qu'il aime moins et tout ça. Et je trouve ça fou qu'il ait réussi à développer ça tout seul, quoi. Mais voilà. Mais donc, très bon livre, je vous le recommande. Et si quelques-unes de ces citations vous ont fait sourire, bah, vous allez aimer le reste du livre. Je vous ai pas trop spoilé en plus, donc c'est plutôt cool. Et là, j'ai commencé Voyage au bout de la nuit de Céline, parce que justement, il en parle, et que j'avais jamais lu ce qui apparaît comme un chef-d'œuvre de la littérature française. C'était pas mon programme au lycée, et bah parfois, on a tendance à ne pas lire ce qui est pas au programme au lycée, et d'arrêter la littérature et lire que des trucs sur le scaling de boîte. Et bah du coup je suis très content de lire ça, donc voilà, j'en suis encore au début. Je sais pas si je vous ferai un truc sur Céline ou sur Voyage au bout de la nuit, mais j'en suis à quelle page, je vous dire ça, j'en suis page 57, donc c'est clairement le tout début, mais bon, pour l'instant j'aime bien. Voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles je vous laisse parce qu'il est déjà 23h45 et que je suis bien past mon sleep schedule, et que je dois aller absolument dormir. J'espère que cet épisode vous a plu. Désolé pour ma voix qui est un petit peu enrouée, si je parle un peu du nez, s'il y a eu des petites pauses et tout, c'est pas la meilleure situation d'un point de vue ORL, mais c'était un plaisir pour moi d'enregistrer ce podcast. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, partagez-le autour de vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la semaine à venir, pour tous vos projets. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous déchirez tout en ce moment, je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, salut, bye bye.